je suis très heureux de m'adresser à la fois aux auditeurs de Radio Espérance et à ceux qui sont présents aujourd'hui à la Sainte-Baume. Donc, bonjour à tout le monde. Mon exposé va être un peu décalé par rapport au précédent. Vous avez entendu de savants philosophes, des exégètes érudits, et je ne suis, on l'a rappelé, qu'un historien, une sorte d'historien érudit, mais historien quand même. Et ce sujet relève peut-être davantage de l'histoire des idées que de la théologie. Vous avez vu que j'intitule cette conférence en parlant de l'antichrist, puisque c'est le terme originel qui est devenu en français antéchrist pour des raisons de prononciation et d'habitude, et qui n'a aucun rapport, du reste. Augustin le disait, ce n'est pas celui qui arrive avant le Christ, antéchrist, c'est celui qui est contre le Christ, antichrist, comme on le dit dans les autres langues. En français, on a antéchrist, mais en italien, en allemand, en anglais, c'est antichrist. Alors, dans un Occident déchristianisé, l'antichrist, nous verrons, a conservé quelques prestiges. Vous le rapprochez, rapprochez le micro. On parle de lui plus fréquemment que du Christ, finalement, et son histoire est mouvementée, et l'image contemporaine n'a guère été fixée qu'au XVIIe siècle. L'Antichrist a donc une histoire mouvementée et même une préhistoire. Cette histoire a connu des pics d'actualité, par exemple au Xe siècle, je vais en parler, un abbé de Montier-en-Der, la Haute-Marne à l'heure actuelle, qui a écrit une vie de l'Antéchrist, la première vie de l'Antéchrist, et puis au temps des réformes au XVIe siècle, un débat autour de l'Antichrist, les protestants désignant souvent le pape comme étant l'Antichrist et les catholiques s'efforçant de montrer que l'Antichrist ne peut pas être un personnage, mais qu'il représente un mouvement, etc. Alors, l'Antichrist commence par se dissimuler. L'Antichrist commence par se dissimuler car on ne le trouve pas là où on penserait le trouver. Dans l'Apocalypse attribué à Jean, le mot est absent dans tout le texte de ce livre. C'est Paul, lui, qui parle de l'homme de péché, le fils de perdition, le mystère d'iniquité, cette figure qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, mais qui ne porte pas de nom et qui sera nommé Antichrist dans, le frère l'a rappelé, les épîtres de saint Jean. La première épître de Jean, je lis la traduction de Jean Calvin, « Jeunes enfants, le dernier temps est, et comme vous l'avez entendu, que l'antéchrist viendra, dès maintenant, il y a même plusieurs antéchrists dont nous connaissons que c'est le dernier temps. » Et deux autres passages dans la première épître de Jean et dans la seconde épître de Jean. L'hésitation très réduite des trois textes joanniques et des mentions de l'homme d'iniquité dans les textes, dans le corpus paulinien, n'auraient pas suffi à composer un portrait suffisamment séduisant de l'Antéchrist. Il a fallu en rajouter. Et pour en rajouter, on est allé puiser dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Il n'avait pas lieu de chercher très loin pour trouver des textes qui nous parlent de la fin du monde, on vous en a parlé hier. Le livre de l'Apocalypse, on vous en a parlé, est un livre d'une grande complexité et qui emprunte au livre de Daniel une série de visions dont la succession semble, sinon incohérente, du moins mystérieuse. Alors, le livre biblique de Daniel, je vais en parler un petit peu, on a dû vous en parler aussi, il est composé de plusieurs parties autonomes. Au chapitre 7, Daniel voit quatre bêtes. Un lion ailé, un ours, un léopard et un monstre, pas très bien identifié, un dinosaure, hein, qui porte 10 cornes. Une petite corne pousse soudain, elle arrache les 3 des grandes, etc. Plus loin, un messager divin apparaît au narrateur pour le rassurer, le prépare une grande vision qui occupe les chapitres 10 à 19. On reconnaît alors la persécution, probablement la persécution qu'Antiochus Épiphane a fait subir au peuple juif, la prophétie de la mort d'Antiochus qui mène à l'annonce d'un jugement final. Alors les temps sont mystérieusement annoncés, une période de terreur, 1290 jours, une plénitude de joie commençant après 1335 jours. L'adversaire du Messie est donc une tradition juive qui va prendre toute sa consistance en milieu chrétien, qui va garder en commun l'opposition au royaume messianique. En commun avec la tradition juive et la tradition chrétienne, l'antichrist est celui qui s'oppose au Christ, qui s'oppose au Messie, soit le Messie à venir, soit le Messie déjà venu. Alors, le livre de l'Apocalypse a constitué un répertoire extraordinairement fertile pour l'imagination chrétienne à travers les siècles. Les représentations sorties de l'Apocalypse, on pense bien sûr aux tapisseries d'Angers, par exemple, mais il y a des centaines de représentations sorties de l'Apocalypse, qui est un livre extrêmement curieux, avec beaucoup de termes qui ne se retrouvent pas dans le reste, ni du l'Ancien, ni du Nouveau Testament, ni même du corpus grec des Septante de l'Ancien Testament. Et ces mots, c'est très intéressant, sont souvent des mots de tissu, de couleur, de métaux, de pierres précieuses. Il y a tout un vocabulaire qui intéresse les lexicologues grecs, parce que parfois on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, quelle est la couleur qui est derrière le trône de Dieu. Bon, on ne sait pas très bien, vous savez, les couleurs, petite note de bas de page, sont très difficiles à définir. Très difficile à définir, ne serait-ce aujourd'hui. Je voudrais m'évoler couleur blanche. Aujourd'hui, on a des numéros, on essaie de vous dire quelle blanche. Bon. Et alors, vous imaginez quand il s'agit de la couleur de la mer chez Homère. Donc, on ne sait pas très bien, elle est verte, on dit, d'accord, enfin, mais ce n'est pas le même vert que les salades. Enfin, bon. Donc, traduire les couleurs a toujours été, mes éminents confrères à l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui est spécialiste des couleurs, et il est bien connu, et qui dit bien combien c'est difficile de traduire les couleurs. Alors, le règne de la bête est prévu pour durer 1260 jours. On retrouve la chronologie, 42 mois de Daniel. Deux bêtes persécutent les saints, l'une venue de la terre avec deux cornes, l'autre sortant de la mer avec sept têtes et plein de cornes. Deux témoins se lèvent contre ces deux bêtes qui sont tuées. Les témoins sont tués, ils sont morts pendant trois jours et demi. Ils ressuscitent et durant le temps des persécutions, Dieu encourage les siens à la résistance en ouvrant les sept sceaux, faisant sonner, poum poum, les sept trompettes et versant les sept coupes de colère. Satan est enchaîné pour 1000 ans, le Christ et les siens règnent pour 1000 ans. L'incertitude règne pour savoir si ce sont les mêmes 1000 ans, si c'est contemporain ou si c'est successif. Bon, à la fin des temps, de toute façon, la grande bataille s'engage à Armageddon. Mes étudiants prétendaient à tort que c'était pour Armogate, mais Armageddon, il m'avait surnommé Armageddon, où Satan est tué et où commence le jugement dernier. Alors, les textes des pères, je découvre une préhistoire, la force des ténèbres, Paul, la seconde épître aux Thessaloniciens, Jean, l'Apocalypse, et les textes sibyllins. Alors, les textes sibyllins, c'est une histoire complexe. Une histoire complexe qui va du 4e siècle au 12e siècle. Difficile à dater de près. La figure des sibylles se diffusa au 1er siècle de notre ère, dans tout le bassin méditerranéen, dans le Proche-Orient, et des textes d'autant plus hermétiques, qui sont obscurs, et qui donc suscitent la réflexion de tas de gens, souvent un peu tordus, qui s'excitent sur ces textes absolument mystérieux et qui doivent leur succès précisément à leur incompréhensibilité. Les milieux juifs hellénisés, les milieux chrétiens, souvent marginaux, furent des foyers de rédaction, d'interpolation, de diffusion de ces textes, que des écrivains comme Clément d'Alexandrie, comme Justin, comme Augustin, n'hésite pas à citer d'ailleurs comme des autorités. Et puis le Moyen-Âge a continué à interpeller, à enrichir le corpus, et il était porté à les tenir pour des textes inspirés. Vous souvenez, dans la chapelle Sixtine, les Sibylles de Michel-Ange, les Sibylles qui ont prédit la venue du Christ, qui sont au même rang que les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, les oracles sibyllins ont continué à enrichir la légende de l'Antichrist, où les révélations du pseudo-méthode fin du 8e siècle, où l'oracle de la Sibylle Tiburtine, On l'a en latin, mais c'est la traduction latine d'un original grec du IVe siècle, mais qui a été enrichi au XIe et au XIIe siècle. Alors tout ça a contribué à la légende, par exemple, de Néron, Nero Redivivus, Néron ressuscité, le dernier empereur, le soulèvement de Gog et Magog, je vais en parler dans un instant, de deux guerriers géants, chefs des peuples du Nord, sont des amplifications qu'on trouve au livre 3, 4 et 5 des oracles sibyllins. Alors l'attente imminente de la fin des temps marque le pas avec la conversion de l'empereur Constantin, la paix religieuse, 313, le changement de perspective que donne l'installation d'un empire chrétien est marqué par le ton moralisant du premier grand commentateur de l'Apocalypse, nommé Tychonius, dont on ne sait pas grand-chose, vers la fin du IVe siècle. Alors, on en sait d'autant moins que le bon Tychonius tourna à l'hérésie et qu'on s'est empressé de détruire ses textes. Et heureusement, Augustin, l'immense Augustin, le magasin de toutes les hérésies, parce qu'il les cite pour les réfuter, bien entendu, l'immense Augustin nous a gardé des bouts de Tychonius. Alors, d'autant plus volonté que lui-même, dans ses premières années, Augustin avait été très marqué par Tychonius, très frappé par cette perspective millénariste. Et pour lui, d'une certaine manière, la prise de Rome par Alaric, la prise de Rome par les barbares, 420, marque un peu la fin d'un certain monde, la fin du monde romain. Et quand il écrit la cité de Dieu, il pense évidemment à cette chose extraordinaire, Rome, Rome éternelle, mise à sac par des barbares qui étaient aussi chrétiens d'ailleurs, que les habitants de Rome à l'époque. Bon, alors, il décrit les 1000 ans comme une manière, il récupère le millénarisme, il le décrit comme une manière d'écrire l'histoire de l'Église dans son ensemble, et il s'attache à une lecture spirituelle des combats de l'Apocalypse. Et son interprétation, qui sera reprise par un moine anglais, Bede, qui est un moine du 7e siècle, 670-735, Bede reprend la chronologie proposée par Augustin, et ça va dominer les lectures successives de l'Apocalypse en Occident. Alors, néanmoins, la croyance à l'Antichrist reste un élément historique. Augustin hésite beaucoup et très astucieusement, il dit que ça dépasse la connaissance humaine. Voilà, un homme sage qui dit, on en sait, ouais, c'est vrai, mais on ne sait pas trop, mieux vaut ne pas trop s'intéresser à savoir ce que c'est. Et alors, c'est très remarquable, c'est que par exemple, j'étais très très frappé que le grand commentaire d'un Espagnol, Beatus de Liébana, qui deuxième moitié du 8e siècle, qui commente l'Apocalypse. Or, il ne parle pas de ce qui est à sa porte et chez lui, c'est-à-dire de l'islam qui occupe l'Espagne. Il aurait pu dire, l'Antéchrist, ça y est, c'est Mahomet. Pas du tout. Il s'en tient à une description morale et symbolique. Je crois que c'est très important de comprendre, et ça c'est un peu le renouveau patristique que nous avons connu récemment, c'est-à-dire il y a 80 ans, qui nous porte à comprendre que l'écriture n'est pas seulement l'objet d'une analyse historico-savante, historico-critique, que j'ai appris à pratiquer, qu'on a tous appris à pratiquer, mais est aussi son interprétation dans la tradition de la foi, voyez, ce qu'on appelle une exégèse canonique, que Benoît XVI a magnifiquement illustré dans son Jésus. Donc il y a un aspect historico-critique, on ne va pas dire l'Épître aux Hébreux a été écrite par saint Paul, hein. Bon, tout le monde sait depuis Origène au moins que c'est pas saint Paul qui l'a écrite, mais on va comprendre aussi que cette Épître aux Hébreux nous est aussi destinée, que l'Esprit-Saint parle à l'auteur sacré, et l'auteur sacré nous parle. Il nous parle à nous aujourd'hui, en 2023, voyez. Et je crois que c'est très important de comprendre que l'exégèse n'est pas seulement une science historico-critique, il faut connaître les langues, il faut connaître la tradition, et les dominicains de Jérusalem s'y emploient avec beauté, mais il faut aussi pouvoir comprendre comment cette écriture a été reçue à travers les siècles, comment la tradition est venue l'enrichir. Et en ce sens, les pères de l'Église ont, dès les origines, commenté l'écriture dans un sens mystique, dans un sens spirituel, et pas nettement, immédiatement, dans un sens historique. Donc le lien entre l'histoire de l'Église et l'histoire cosmique va se développer à partir du 8e siècle, et ça atteint son sommet au 10e siècle, avec un moine jurassien, montier en der, j'y étais l'autre jour d'ailleurs avec des amis, dans l'actuelle Haute-Marne, près de Vitry-le-François. Donc Hadson, il s'appelle Hadson, A-D-S-O-N, Hadson de montier en der. Alors je pense qu'il doit avoir un petit truc, voilà, Hadson de montier en der. Il meurt en 992. Et il rédige, entre 950 et 952-53, une vie de l'Antéchrist, à la demande de la reine Gerberge, qui était l'épouse de Louis IV d'Outre-mer. Hein, d'Outre-mer parce qu'il avait été élevé en Angleterre, donc c'est de l'autre côté. Bon, donc Louis IV d'Outre-mer, qui a eu ces princes, ces rois carolingiens qui ont eu quelques problèmes. Alors, il ne faut pas chercher l'originalité dans ce petit livre d'Hadson, que j'ai traduit là dans mon bouquin, de la naissance et du temps de l'Antéchrist. Hadson n'invente rien, il recopie parfois la lettre, les éléments du dossier. Et c'est en ce sens que c'est intéressant, parce qu'on a tout le dossier, ce qu'il a trouvé chez Jérôme, chez Bède, chez un bénédictin, Aymond d'Auxerre, évêque de Halberstadt, qui meurt en 850 à peu près. Pour un historien, je suis jamais très fort sur les dates. Et Aymond d'Auxerre commenta les lettres de Paul aux Thessaloniciens, et donc fournit des éléments sur l'Antichrist. Alors l'originalité et le succès d'Hadson de montier en der tient à ce qu'il a rédigé une vie de l'Antéchrist. Ça y est, il fournit le dossier complet, il rédige une vie de la naissance et du temps de l'Antéchrist. Et ce court texte constitue, une quarantaine de pages, la référence obligée, sans cesse reprise, paraphrasée. Alors, dès sa définition, il insiste sur les contrarias. L'Antéchrist, c'est le singe de Dieu. Et donc, pour être le singe de Dieu, il faut qu'il ressemble à Dieu. Alors c'est là ce qui va être tout le problème de l'Antéchrist dans toute la conscience européenne et mondiale, c'est que pour que l'Antéchrist soit crédible, il faut qu'il ressemble à Dieu. S'il ressemble, si l'Antéchrist se présente comme un petit bonhomme tout noir avec des cornes, une queue et qui pue le soufre, on dira c'est pas l'Antéchrist, c'est le diable, c'est évident. Mais s'il se présente, et nous verrons comment au XVIIe siècle, ça fait un peu l'acmé, la crise de la représentation de l'Antéchrist, il se présente comme un jeune homme sympathique, vêtu de blanc, ayant des marques sur les mains et sur les pieds, et disant « Bienheureux les pauvres !» Alors on se dit « Ah, ça y est, c'est le Christ qui revient, c'est formidable !» Et nous allons voir que c'est là le drame de la conscience chrétienne, donc profonde de la conscience chrétienne, de savoir est-ce vraiment lui, est-ce vraiment Jésus qui revient, ou est-ce un ersatz, est-ce l'Antichrist. Nous verrons comment l'Antichrist s'efforce de ressembler le plus possible au Christ. Et c'est là le fond du problème, et c'est Hadson qui, le premier, pose un peu cette question. Et Hadson est resté un traité un peu savant, lu par les moines, mais ça a été très popularisé par un texte que beaucoup d'entre nous ont lu, qui est la légende dorée, de Jacques de Voragine, qui consacre un chapitre à l'Antichrist et qui reprend les éléments d'Hadson, et la légende dorée a été extrêmement répandue dans le milieu chrétien. L'Antichrist est vraiment l'anti-saint. Alors, un usage polémique du terme Antichrist a été le lot commun des grands conflits médiévaux entre pape et empereur, entre pape et antipape, etc. Et la fin du XVe siècle, le début du XVIe siècle, voit l'impression, début de l'imprimerie, des principales sources de la tradition. Bon, alors c'est surtout, je vous passe les détails techniques et savants, pour penser qu'il y a tout un tas de publications dans les débuts de l'imprimerie autour de l'Antéchrist. Alors c'est vrai qu'on imprime la Bible, bon c'est très bien, mais on va imprimer aussi des tas de choses, surtout sous forme de petits fascicules, en langue ordinaire, en allemand, en italien, dans les différents dialectes parlés en France à l'époque, distribués par les colporteurs, des petites brochures de 8 pages, 16 pages, distribuées par les colporteurs qui passaient dans les villages avec leurs boîtes et qui vendaient. Alors, il y a, ce sont souvent des almanachs avec des références agricoles, hein, la lune, le moment des semailles, le moment des moissons, etc., le temps qu'il va faire, c'était aussi exact que la météo aujourd'hui, et d'autre part, des récits biblique, imagée, et l'Antéchrist fournit évidemment beaucoup de choses pour avoir des tas d'images. Alors, ça, c'est un truc intéressant, c'est à la cathédrale d'Étampes. Alors, on ne voit pas très bien ce que c'est sur un chapiteau de la cathédrale d'Étampes, mais vous allez voir avec l'image suivante, qui est une illustration allemande du XVe siècle, que l'on comprend mieux. En fait, il s'agit d'un monstre, hein, à gauche, un monstre, il est gros, il est monstre, hein, et qui façonne un antichrist, qui façonne une image, une poupée. Donc on la voit ici, vous voyez. Donc l'antichrist à gauche, qui présente au monstre à droite un homme, une image d'homme. Et j'ai mis, en gros, là, sur la manche du personnage, là, qui a l'air vicieux, il a l'air vicieux, il ressemble à un évêque, qui est là. Pardon. Et ça a été enregistré en plus de ça. Et alors, sur sa manche, à droite, il y a, vous voyez, les lettres hébraïques qui correspondent au chiffre 6, 666, pour qu'on ne se trompe pas, c'est pas un évêque, c'est l'antéchrist. Vous voyez? Donc, 666, et il présente, il a fabriqué un homme qu'il va présenter, vous voyez, qui présente à l'abominable bête qui est en face. Alors, j'en arrive à un personnage curieux que je vais parler un petit peu plus longtemps, qui s'appelle Fernand de Cordoue. Je recours à mon bouquin parce que je n'ai pas voulu recopier les pages que j'avais écrites dessus. Alors, il faut juste que je retrouve la page, qui est un personnage en qui on a cru reconnaître un antichrist. Et alors, c'est un personnage qui est peu connu, certes, mais c'est tout à fait curieux, tout à fait intéressant. Alors, j'essaie de retrouver, j'ai pas marqué la page, j'ai eu tort. Bon, je vais vous en parler de mémoire, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que d'avoir recours au texte. Bref, c'est nous sommes au XVe siècle, fin du XVe, début XVIe, c'est un jeune Espagnol de Cordoue qui arrive à Paris, qui parle une quinzaine de langues, qui met à néant les objections des docteurs de la plus illustre université du monde, celle de Paris bien sûr, qui répond à toutes les questions et qui opère des gestes magiques. Alors je vais un peu reconstituer sa vie. Il va partir de Rome, capitale intellectuelle, vers la capitale du péché, vers Rome, et donc à Rome il va être reçu avec beaucoup d'honneur jusqu'au moment où il va exagérer en termes de magie. Alors la Sainte Inquisition va s'intéresser de près à ce qui se passe, et il va très mal finir. Vous voyez, 1421, 1480, Fernand de Cordoue. Ce que je veux dire, c'est que à toute époque, on a essayé, nous verrons une des dernières images, je laisse le suspense, et je regrette pour les auditeurs de Radio Espérance de ne pas voir les images, une des dernières images va montrer comment l'Antichrist est souvent assimilé à un personnage, en général quelqu'un qu'on n'aime pas, hein, mais un personnage qui surprend, un personnage qui est étrange. Alors, le personnage qui est étrange, qui surprend, eh bien, au moment des réformes, ça va être le pape, évidemment. Ça va être le pape. Alors, c'est un texte important de la tradition réformée, les articles de Smalcalde, 1537, ça y est, j'ai retenu la date, 1537, les articles de Smalcalde, qui font intervenir la croyance que le pape est l'antichrist. Alors, les réformes protestantes opèrent un double transfert. D'une part, cette identification n'appartient plus seulement au registre polémique, mais devient une affirmation doctrinale. Premier passage, c'est plus quelque chose d'un argument polémique. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand on m'insulte, bien sûr, toute insulte est du charabia, de toute façon, ça veut rien dire. Bon. Mais c'est plus important quand ça devient du dogme, quand ça devient un élément doctrinal. Et puis, elle ne s'applique pas à un pape particulier, mais à une institution. C'est la papauté qui est l'antichrist. Voilà. Et donc, tous les papes, les uns après les autres, mais c'est la papauté qui est l'antichrist. Luther identifie l'Église romaine, pas avec l'Antichrist d'ailleurs, mais avec la prostituée de Babylone. Et ce sont des Français, le synode de Gap, des calvinistes, en 1603, octobre 1603, le synode protestant qui est élu à Gap, qui fait entrer dans la profession de foi des Huguenots l'identification du fils de perdition, l'Antichrist, avec le pape. Et alors que la paillarde revêtue d'écarlate, c'est l'Église romaine. Et alors, comme le dit, non sans humour, un prédicateur anglais, un protestant est quelqu'un qui jure que le pape est l'antichrist et qu'il faut manger de la viande le vendredi. Bon. Alors, personne ne doute que Rome ne soit, comme Milton, le grand poète anglais, l'affirme en 1641, la principale tanière de l'antichrist. Et l'accusation devient, c'est assez commode, un signe d'unité entre les différentes réformes. Vous savez que les réformes ont éclaté très vite en différentes communautés ou églises, mais le signe d'unité était commun, c'était la papauté, c'est l'antichrist. Il y a au moins un point d'unité profond. Et alors, la succession des papes, depuis le temps de la dégénération de l'Église, en général fixée vers le IXe siècle, c'est l'accumulation du mystère d'iniquité, mais on y rajoute quelquefois en appendice les Turcs, l'Empire ottoman, et puis aussi, pour faire poids, les anabaptistes de Münster, par exemple, les extrémistes de la réforme, les gens qu'on va persécuter, ben tout ça, ça relève du domaine de l'antichrist. Qu'il s'agisse des papistes, des turcs, des anabaptistes, tout ça, c'est l'antichrist. Alors, le problème est simple, articulé en deux temps. Où donc étaient les réformateurs avant les réformes du XVIe siècle? Et en second lieu, pourquoi Dieu a-t-il laissé le peuple de Dieu dans l'ignorance aussi longtemps? Pourquoi Dieu a-t-il attendu 16 siècles pour faire renaître Martin Luther et Jean Calvin? Alors le concept de nouveauté, d'innovation, était suspect à tout le monde. Aujourd'hui, ce qui est neuf, ce qui est moderne, c'est beau. Ben, il faut comprendre que pendant des siècles, jusqu'au 19e siècle inclus, ce qui est neuf, ce qui est moderne, c'est pas beau. Ce qui est beau, c'est l'antique, beau comme l'antique. Hein. Et donc, il fallait convaincre le fait que la réforme, dès les origines de l'Église, était mise en place et a été combattue, a été opprimée pendant 1000 ans et demi par l'Église principale. Voilà. Donc l'idée, c'est cette démonstration de l'activité du pape avec l'Antéchrist. Et donc une vision de l'histoire divisée en trois temps, le temps de l'Église, le temps de l'Antéchrist et le règne eschatologique du Christ. Alors, c'est un usage intensif. Voilà, dans une gravure du XVe siècle, une figure intéressante de l'Antichrist. Vous voyez, il brûle les livres. Il a une sorte de râteau, là, il brûle les livres. Je décris l'image pour les auditeurs de Radio Espérance. Et il a derrière lui un personnage à deux têtes. Un personnage qui a l'air d'être un religieux avec un voile sur la tête. Et puis l'autre tête est un monstre abominable avec un grand nez, de grandes dents, des oreilles, exactement comme représente le diable. Et il est derrière l'Antichrist. Il souffle l'Antichrist ce qu'il doit faire. Et l'Antichrist jette au feu des livres sur l'un d'entre eux. On lit d'ailleurs Sabaoth, donc... C'est des livres juifs et des livres chrétiens sont jetés au feu par l'Antichrist. Alors, l'action de Calvin, qui n'a jamais commenté l'Apocalypse, et on comprend pourquoi l'Apocalypse était un peu le domaine réservé des extrémistes, certains évangéliques aujourd'hui, vous voyez. Et donc Calvin s'est bien gardé de commenter l'Apocalypse. Mais les notes marginales de la Bible de Genève à la seconde épître aux Thessaloniciens identifient évidemment l'homme de péché au pape. Et le rapproche des bêtes de l'Apocalypse. Alors, cette idée d'une succession de la papauté à l'Empire romain traverse tout le XVIIe siècle. Et Martin Stephens nous a parlé de Thomas Hobbes le premier soir. Et bien, dans le Léviathan, Hobbes voit la papauté comme le fantôme de l'Empire romain qui est assis, couronné sur une tombe. Et il parle de la popery en ces termes. Plus on considère leur religion, la religion de Rome, moins on la peut tenir pour une religion, mais plutôt pour une simple principauté romaine, essayant de préserver son ancien empire universel sous un nouveau nom et sous l'ombre d'une religion catholique. Donc une succession de l'Empire romain, donc dans l'Apocalypse, identifié comme Babylone, etc. Et la Babylone, c'est Rome, et donc une succession au fil des siècles de l'Empire romain, et puis de l'Église romaine qui a pris la suite de l'Empire romain. 666, Le chiffre de la bête, au chapitre 13 de l'Apocalypse, a entraîné de longues exégèses. À l'école pratique des hautes études, j'ai fait quasiment un cours d'une année sur l'exégèse de 666. Donc, rassurez-vous, ça va être bien plus bref. Je vais retenir l'une des plus brillantes exégèses de 666, qui est d'un nommé Francis Potter, qui publie à Oxford en 1642 une interpretation of number 666. La thèse ingénieuse est figurée dans le frontispice. La Jérusalem céleste d'un côté, avec ses 12 portes au-dessus le titre, le Christ à la tête des 12 apôtres, suivi d'un carré de 144 lanciers, et le pape est en face, au-dessus de Rome, on voit le Tibre, le château Saint-Ange, la coupole de Saint-Pierre, suivi de 25 cardinaux et une armée de 666 soldats. Alors, la démonstration repose sur la racine carrée approchée de 666, 25, c'est-à-dire le nombre des cardinaux. Et mathématiquement, compte tenu de l'approximation, le chiffre désigne donc à la fois le pape, la curie romaine et la ville elle-même. L'explication mathématique de Potter vient au terme d'une longue série résumée par le grand cardinal jésuite Robert Bellarmine, mon saint patron, qui meurt en 1621. Dans ses 3 volumes in folio de controverses, sa tâche consiste à réfuter pied à pied, point par point, les opinions protestantes par de gros dossiers sur toutes les questions disputées. Dans ses chapitres sur l'Antichrist, pour repousser l'identification institutionnelle avec la papauté, Bellarmine met en place, de façon détaillée, avec une grande autorité, le portrait de l'Antichrist pour notre temps. Donc il faut comprendre que l'apologétique catholique va s'efforcer de dire « l'Antichrist, ce n'est pas la papauté. L'Antichrist, c'est une personne distincte qui ne peut pas être confondue avec un pape. » Alors, je vais abréger la démonstration de 666. L'un des textes les plus importants pour cette identification précise de l'Antichrist, c'est un grand théologien dominicain, Malvenda, qui publie qui est un historien de l'ordre, 1628-30, et qui est un savant hébraïsant, auteur d'une traduction littérale de l'Ancien Testament, d'un ouvrage sur le paradis, le localisant du reste, et surtout d'un monumental De Antichristo, 11 livres publiés en 1604 et augmentés en 1647, posthume, porté à 13 livres. Donc c'est un énorme in-folio de 1300 pages qui nous identifie l'Antichrist. Alors l'Antichrist, il est le fils d'un prêtre renégat et d'une religieuse, juive, tous les deux de préférence. Il est élevé par des démons qui lui enseignent toutes les sciences de la terre, toutes les langues et toutes les connaissances. Et alors, Malvenda, selon la coutume de l'époque, il y a des pages entières sur qu'est-ce que l'arithmétique, qu'est-ce que l'astronomie, qu'est-ce que le calcul des surfaces, quelles sont les langues que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y en a 78 ou 82, et comment l'antique. Et donc, il explique, c'est une encyclopédie du savoir au début du XVIIe siècle. C'est très intéressant, parce que Malvenda fait une encyclopédie de tout ce qu'on pouvait savoir au début du XVIIe siècle, et l'Antichrist savait tout ça. À l'âge de 14 ans, les démons lui avaient tout appris. C'est une intelligence formidable qui était capable de parler toutes les langues et surtout qui connaissait les Écritures en hébreu, en grec et en latin. Il connaissait admirablement les Écritures. Et donc voilà qu'il va débarquer, et il va débarquer, et il va débarquer avec un froc de moine. Il va être passé pour un moine. Alors, on ne dit pas la couleur du froc, je ne pense pas que Malvenda pensa qu'il fût blanc. Mais il arrive avec un froc de moine et il se fait passer pour un moine très savant. Et donc il est introduit à la cour des grands et il fait des miracles. Il fait des miracles. Alors ce sont des pseudo-miracles, bien entendu, il faut faire attention. Mais c'est tout à fait intéressant, comme je vous le disais, il s'efforce de passer pour le Christ. Et alors, cette identification passe dans le théâtre espagnol, par exemple, chez Alarcón, cette grande tradition du théâtre espagnol, Lope de Vega, Alarcón, le grand théâtre espagnol du XVIIe siècle, un théâtre religieux, et Alarcón, 1630, fait une pièce sur l'Antéchrist. Et alors l'Antéchrist apparaît, il est déjà adulte, on passe sur son enfance, tout ça, il apparaît sur la scène, c'est un jeune homme, vêtu de blanc alors pour le coup, et qui arrive et qui prêche de manière merveilleuse, qui prêche de manière merveilleuse et qui attire les foules autour de lui. Il prêche, il attire les pauvres, il attire les riches, il attire les justes, il attire les injustes, tout le monde vient l'écouter tellement il parle bien. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui se lève et qui l'accuse. Et on reconnaît que c'est Hénoc qui se lève et qui l'accuse. Et l'Antéchrist lui fait couper la tête, touc. Et alors, dans le théâtre, et on pose la tête sur une table, il y avait quelqu'un sous la table, je suppose, parce qu'à un moment donné, la tête se met à remuer et se met à parler. Bon, nous sommes là en plein dans le théâtre à machine, le théâtre baroque merveilleux, c'est une pièce merveilleuse, la pièce d'Alarcon. Alors, il y a déjà eu, au Moyen-Âge d'ailleurs, des mystères, mais alors les mystères médiévaux ne sont pas très habiles, parce que les mystères médiévaux, les diables apparaissent avec des cornes, une queue, une fourche, et on brûle du soufre quand ils arrivent, alors tout le monde sait, c'était souvent du théâtre en plein air, heureusement, avec le soufre, hein, mais tout le monde sait que c'est le diable qui entre en scène, là il n'y a pas de problème. Alors l'astuce, c'est qu'au XVIIe siècle, justement, on essaie de comprendre que pour passer pour le Christ, il faut qu'il ressemble énormément au Christ. Et nous allons voir, ça va être la fin de ma conférence, à peu près, on rapproche, nous allons voir comment cette identification d'une personne au Christ est extrêmement dramatique. Est extrêmement dramatique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons là quelque chose, oui, j'ai fait le détail de l'image dans les deux images qui suivent. En bas, vous voyez, à gauche de l'image, un diable, hein, on le voit, une corde, il y a des cornes, tout ça, et devant lui, il a un professeur d'université, hein, un professeur d'université, avec le bonnet des professeurs d'université, le bonnet des docteurs, et il enseigne au peuple ce que le diable lui souffle dans l'oreille. Alors là, on a un détail, vous le voyez mieux. Voyez. Alors, il y a un professeur de l'Université de Paris, par exemple, qui explique des choses au peuple, et le peuple lève les mains, l'acclame. Alors, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'écouter, il y a des gens qui sont un peu distraits. Mais vous voyez, tout le peuple, là, sur la droite, il y a même des évêques, il y a même des clercs, tout le monde écoute. Et vous voyez, en haut à droite, les deux témoins, Hénoc et Élie, les deux témoins qui vont être tués, puis ressuscités, qui sont là-bas à la tribune et qui essaient de dire au peuple, mais le peuple ne le regarde pas, le peuple regarde celui qui parle et qui parle. Et alors, au-dessus, eh ben, il y a la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, alors vous voyez le malheureux prof d'université à cheval sur un monstre, avec un autre monstre qui essaie avec un gourdin de se défendre, et puis un troisième monstre à la droite qui a aussi un gourdin, et puis l'archange Michel qui descend du ciel avec une grande épée et qui va exterminer tout ce monde. En général, ça se passe sur le mont des Oliviers, d'ailleurs, pour que ce soit mieux, encore mieux, sur le mont des Oliviers, l'archange Saint-Michel apparaît, lac, il tue l'antichrist, Christ, qui s'écroule lamentablement, il y a un trou qui se fait, oup, il descend jusqu'à l'intérieur de la terre et l'histoire est finie. Non, l'histoire n'est pas encore tout à fait finie. Alors, ça c'est dans la tradition protestante une image passionnante Christ contre Antichristi, où les images opposent deux à deux le Christ et l'Antichrist. Alors, à gauche, nous avons le Christ qui chasse les marchands du temple. Stac, vous voyez, il chasse les marchands du temple. Et à droite, nous avons le pape qui vend les indulgences. Voilà. Donc le passional Christi und Antichristi. Donc le Christ chasse les marchands du temple, et à Rome, le pape avec la tiare, vous voyez, les évêques autour de lui, et même un cardinal avec un chapeau bizarre, et puis devant des gens qui mettent des sous pour acheter des indulgences. Donc c'est ce que j'ai appelé la guerre des interprétations. Alors c'est ce texte, cet admirable, la chapelle d'Orvieto, cet admirable tableau où l'on voit l'Antichrist, mais c'est, vous voyez, son bras gauche, c'est apparemment celui du diable qui est derrière lui, et l'Antichrist qui est en train de prêcher aux foules. Dans, je pense à la librairie, vous trouverez quelques numéros de la revue Communio, que je dirige par ailleurs, l'un numéro sur les fins dernières, l'autre sur le temps d'en finir, qui se paraît attaché à notre sujet de cette année, et dans l'un des numéros, il y a un très beau commentaire de ces fresques de la cathédrale d'Orvieto. Il y a aussi dans un numéro un très beau texte de Gonçon Balthazar sur ces questions. Donc, l'anti-évangile de Thomas Malvenda, ben, j'avais raison, 1628, voilà. Voilà le début du tome 2. Alors, ensuite, j'en arrive à la fin, Lord of the World, voilà. Alors, Lord of the World, c'est le titre d'un ouvrage d'un prêtre anglican devenu catholique et prêtre catholique, Hugh Benson, Robert Hugh Benson, 1871-1914, c'est marqué sur mon papier, et c'est l'époque de la fin du XIXe siècle. Il y a un nouveau dynamisme de l'Antichrist comme figure clé, Nietzsche en parle, Soloviov écrit un conte sur l'Antichrist, mais je retiens seulement le bouquin de Benson qui a été traduit, on trouve aux éditions Teki, une traduction de Théodore de Viseva du début du XXe siècle, de Lord of the World. Alors Lord of the World, c'est une parabole de la modernité et une apologie de la papauté. Le président s'appelle Julien Felsenburgh et il est socialiste, collectiviste et écologiste. Et alors il instaure un nouveau culte mondial et il fait détruire Rome par des engins aériens et décide finalement d'exterminer les derniers chrétiens. Et alors les cardinaux se réunissent en cachette, ils essaient de se réunir à Avignon, lieu symbolique, mais ils sont trahis par l'un d'entre eux, le cardinal de Moscou. Le cardinal de Moscou les trahit, et il signale à Weissenberg où se trouve la réunion des cardinaux qui vont essayer d'élire un nouveau pape. Et alors, le nouveau pape est élu, c'est un jeune prêtre anglais qui va se réfugier à Capharnaüm, qui va se réfugier en Terre Sainte, Capharnaüm, la ville de pierre. La ville de pierre où l'on vénère encore aujourd'hui des restes, probablement certains à 98% de ce qui fut la maison de pierre, parce que c'est un foyer et on voit que très tôt, 3e siècle, on a mis là un mur autour et qu'on a reconnu cette maison comme un lieu de culte, donc probablement la maison de pierre. Et un de mes amis avait recueilli des morceaux de la marmite de pierre, parce qu'il y avait des morceaux de poterie. Alors, il va se réfugier à Capharnaüm, la ville de pierre. L'armada de l'Antéchrist se déplace pour l'écraser. Le ciel devient tout noir. Les avions, les gros bombardiers arrivent. Le ciel devient tout noir. Et alors, que fait le jeune prêtre anglais? Eh bien, il fait une adoration du Saint-Sacrement, entouré par quelques femmes. Les dernières qui restent, comme au pied de la croix, sont les femmes, c'est bien connu. Eh bien, entouré de quelques femmes, ce jeune prêtre fait une monstrance du Saint-Sacrement, et le chant du Tantum Ergo est alors ponctué par l'explosion des bombes qui écrasent tout, et on entend alors les anges qui se mettent à chanter par-dessus, et le monde passa, et toute sa gloire se changea en néant. Je reconnais que le roman est faible, mais ses meilleures parties sont précisément les descriptions de l'Antichrist, parce que le côté pieux, voilà, les petites fleurs, plein de respect pour le Saint-Sacrement. Mais il y a un côté un peu pieusard chez le bon père Benson. Mais les descriptions de l'Antéchrist sont fabuleuses. Il a une manière de décrire l'horreur et la méchanceté digne des meilleurs films horribles. Et alors, l'Antéchrist de Benson apparaît prodigieusement intelligent et beaucoup plus intelligent que les cardinaux et ses adversaires catholiques. Alors, l'intention de Benson peut être rapproché de plusieurs événements au cours du XXe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée Dylan Dog, une grande bande dessinée italienne, une série mensuelle de Tiziano Sclavi, qui avait un numéro pour titre L'Apocalypse. On y voyait un bébé du nom de Lambi, l'agneau, qui parlait. Mais les adultes ne parvenaient pas à comprendre cette infance, l'infance, celui qui ne parle pas. Seul un adolescent innocent pouvait saisir le sens des mots balbutiés. Et la bande dessinée, ça c'est dans les années de 2000 et des brouettes, donne le texte, que ce que dit Lambi, ce que dit cet agneau parlant, et bien il dit « Verbum dimissum secretum custodiat ». Il parle latin et il dit que la parole émise conserve le secret. Tandis qu'un crucifix Il y a un prêtre défroqué qui veut faire des choses abominables avec un crucifix. Le crucifix se met à lui parler, comme dans Don Camillo. Hein. Le crucifix se met à lui parler. Que vas-tu faire, mon brave? Et alors, le prêtre, évidemment, se convertit parce qu'il avait l'intention de déclencher la fin du monde en lançant un virus coronaire sur le monde pour détruire le monde. Et alors, ça ne marche pas, bien sûr, et la fin est très bien. Et alors, Tiziano Sclavi, que j'ai interviewé sur ces questions, reconnaissait qu'il avait eu deux sources, l'ange exterminateur de Buñuel, de 62, et le royaume de Lars von Trier, le cinéaste danois, converti d'ailleurs au catholicisme. Alors, il y a de très nombreuses bandes dessinées, séries télévisées sur l'Antéchrist, une grande série Left Behind, je pourrais vous en parler très, très longuement, et un énorme succès. J'étais en Californie à ce moment-là, un énorme succès, il y en avait des piles dans les supermarchés. Left Behind, c'est-à-dire ceux qui étaient restés derrière. Il y avait eu la grande transmutation des justes qui étaient partis, enlevés. Et alors, il restait évidemment les injustes. Et les injustes restaient, et ils devaient subir des épreuves pour parvenir à la... Alors, je raconte ça, il y a eu un énorme succès, ça fait 14 volumes, et donc un énorme succès dans les années, au début des années 2000. Et alors ça, c'est Lord of the World, voilà, Robert Benson. Et voilà, par exemple, un dernier antichrist. Nous voyons les Daily News, Pope calls out hateful Trump. A person who thinks only about building walls and bridges is not Christian. Voilà, des paroles du Saint-Père, qui aurait peut-être pu se taire à ce moment-là, bon, des paroles du Saint-Père qui dit quelqu'un qui ne pense qu'au mur et non pas au pont n'est pas un chrétien. Il s'agissait évidemment du président Trump, dont vous avez le pape en bas à droite, là, qui fait une drôle de tête d'ailleurs, et vous avez le portrait, pas très réussi, du président Trump avec Antichrist en grande... voilà, alors ce sont les Daily News en 2016, Daily News en 2016. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près pour conclure, il est 10h05, c'est donc le temps de l'Antichrist, c'est presque fini. Mais donc je voulais souligner qu'au XXe siècle, au XXIe siècle, nous avons plein de descriptions de l'Antichrist, l'Antéchrist. J'ai plein d'exemples, mais ce que je veux dire pour conclure, c'est que l'imposteur est présent dans les figurations les plus sacrées du christianisme. Et quelle autre religion que le christianisme a pu consentir à mettre en scène sa propre caricature perverse et séduisante pour montrer quelle est la vérité. Les faux miracles de l'Antichrist dévoilent les vrais. Et je crois que c'est très important de voir comment, surtout à partir du XVIIe siècle, la conscience catholique s'est formée à reconnaître le Christ véritable. Le Christ n'est pas nécessairement celui qui parle le mieux, qui fait les plus belles choses, qui vous promet l'avenir le plus riant et le plus enchanteur. Voyez. Et alors je crois que c'est très important. Alors il y a mon long ministère auprès des étudiants m'ont fourni de plein d'histoires rabbiniques, d'histoires talmudiques vraies ou inventées par moi. C'est l'histoire du rabbin qui est en train de lire les Écritures dans sa chambre, et puis soudain un petit gamin lui dit « Le Messie est arrivé, cours vite, il est au bout du village !» Alors le rabbin part en courant, et alors il descend l'escalier, et en bas de l'escalier, il y a quelqu'un qui l'attrape par le manteau et qui lui dit « La charité, mon bon monsieur, pas le temps, je vais voir l'Antéchrist. » Un peu plus loin, une brave dame qui lui tend son écuelle, « Donne-moi un peu de soupe. » »« Pas le temps, je vais voir le Christ. » »« Le Messie est arrivé, laisse-moi passer. » Et puis, quand il arrive, il n'y a plus personne. Et le gamin lui dit, « Mais le Christ était là, mais il est parti. » Le Messie était là, mais il ne t'a pas attendu. Hein? Voilà. Donc, je pense que c'est l'Antichrist est très intéressant pour nous aider à comprendre et comment la conscience chrétienne, nous, vous et moi, mais la conscience chrétienne a réussi à comprendre comment véritablement le Christ devait être reconnu. L'Antéchrist fait des miracles extraordinaires. il ressuscite des morts. Alors évidemment, il fait semblant de les ressusciter. On nous explique qu'il fait semblant qu'en réalité, ce sont des cadavres animés, etc. On essaie de nous convaincre. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en particulier dans le théâtre espagnol du XVIIe, comme dans certaines pièces encore du XVIIIe, l'Antichrist est représenté comme quelqu'un qui est extrêmement sympathique, qui ne peut être que sympathique. Et donc, nous devons apprendre que le message chrétien n'est pas nécessairement un message de bisounours. Voilà. Et donc, le message chrétien est un message dramatique. C'est le message de la passion, de la mort du Christ. Et que ce message, complété par la résurrection, complété par le riant jardin où Marie-Madeleine reconnaît Jésus, c'est aussi un message douloureux, un message dramatique, celui de nos vies quotidiennes. Et je crois que le thème de l'Antichrist, il a été tellement présent dans la tradition chrétienne, c'est précisément pour nous permettre de reconnaître, c'est l'hommage que le vice rend à la vertu, c'est le portrait sans image que les apologètes catholiques de l'âge classique ont tracé du Christ. C'est un Christ au miroir, c'est le singe de Dieu qui nous permet de reconnaître que Dieu ne peut pas être imité. Je vous remercie.